Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La résistance, en ces temps troublés, nombre d'entre nous ont l'impression, quand ils sont chrétiens, d'être d'une certaine manière obligés d'entrer en résistance, de prendre une sorte de maquis intérieur pour garder leur liberté de penser et de croire, pour poser résolument des pas vers une société plus ordonnée, au bien de l'Évangile. Il est des lieux qui parlent de cette attitude intérieure. Des lieux comme Saint-Martin du Canigou, ce monastère millénaire juché dans les Pyrénées-Orientales, ce joyau de l'art roman considéré comme le cœur spirituel du pays catalan. Une abbaye que je vous propose de visiter ensemble ce matin pour découvrir une histoire sainte, passée et présente, pour rencontrer certains des moines qui habitent ce lieu que l'on dit être un prie-dieu face aux Pyrénées. Site exceptionnel d'Occitanie, cap sur Saint-Martin du Canigou. Voilà le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce temps de confinement. On prend de l'air, on part sans autorisation, ai-je envie de dire, et on se balade en Occitanie. Et nous sommes ce matin avec vous, Paul Nérac. Vous êtes prêtre religieux de la communauté des Béatitudes et responsable de l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour.
Nous sommes également avec Pascale de Sagazan. Vous êtes laïque engagée à la communauté des Béatitudes et directrice de l'activité touristique de ce lieu. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et puis nous sommes avec sœur Marie-Ange. Vous êtes religieuse de cette même communauté et donc vous aussi juchée en haut de ce piton rocheux à l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Bonjour. Oui, je vous entends pas, sœur Marie des Anges, mais c'est pas grave. On vous retrouvera plus tard. Voilà, on va donc commencer cette balade virtuelle dans ce grand site d'Occitanie. En ces mardis de temps de confinement, vous l'avez donc noté, on prend la poudre d'escampette. Après les plateaux de la Lozère, les hauts plateaux de la Lozère, après Rocamadour ou alors Saint-Bertrand de Comminges, cap donc dans les Pyrénées-Orientales. On va écouter, comme à chaque fois, un extrait d'un reportage. Là, c'est Des Racines et Des Ailes qui nous invite dont à gravir l'une des montagnes locales en haut du village de Casteil, et voilà ce que l'on découvre.
Sur ses flancs est perché un des plus beaux sites spirituels de la région à 1100 mètres d'altitude, l'abbaye Saint-Martin du Canigou.
Alors ici on a un paysage qui est magnifique au pied du mont Canigou. L'abbaye est construite sur un promontoire rocheux avec un précipice de tous les côtés et puis entourée d'une couronne de ces montagnes qui sont enneigées l'hiver et qui sont verdoyantes ici en même temps au printemps.
Ce sont les moines bénédictins qui choisissent ce lieu isolé pour construire leur abbaye autour de l'an 1000. Abandonné à la Révolution, ce chef-d'œuvre de l'art roman est restauré à partir du début du XXe siècle.
Voilà pour l'introduction à cette abbaye. Donc on va partir du principe qu'on a gravi la côte donc du village de Casteil à Saint-Martin du Canigou, qu'on arrive même, soyons fous, qu'on arrive en hélicoptère. Payons-nous quelques luxes en ces temps de confinement qui nous donnent l'impression d'avoir un petit peu d'air. Alors Pascale de Sagazan, vous allez nous servir de guide touristique au début de cette émission. Déjà, avant qu'on parle de l'abbaye, que voit-on autour de nous si on prend un peu de hauteur, à quoi ressemblent ces montagnes?
Alors vous n'avez même pas besoin de prendre l'hélicoptère parce qu'on a un superbe point de vue qui est à 5 minutes à pied au-dessus. Donc c'est ouvert vraiment. Cette vue, vous pourrez l'avoir même en venant comme un simple touriste. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On réalise vraiment que l'abbaye est sur un piton rocheux. Et effectivement, il y a le précipice de plusieurs côtés. On est logé vraiment dans la montagne. En fait, on voit une petite merveille, un petit joyau du début du XIe siècle, donc le tout début de l'art roman dans la région. Et puis, c'est caché dans tout un écrin de verdure.
Alors, l'écrin de verdure, le mont Canigou est loin d'ici. Vous êtes quoi,
Mais en fait, on est vraiment sur le contrefort. Donc, de où on est, on ne peut pas voir le pic du Canigou. Mais si vous descendez, ne serait-ce qu'à Vernay-les-Bains, à quelques kilomètres, à 5 kilomètres, eh bien, vous verrez le canigou.
On peut dire aussi à quoi ressemble la végétation, parce qu'on sent bien qu'on est dans le sud de la France. Il y a beaucoup de taillis, hein. Vous pouvez décrire un petit peu la végétation?
Quand on monte à pied, on s'aperçoit qu'on passe par deux paysages. Au tout début, c'est une... on va gravir assez fort, hein, parce qu'il faut vous rendre compte qu'il y a moins d'un kilomètre cinq et on monte de 200-250 mètres d'altitude. Donc ça monte fort. Et d'abord, on va avoir un paysage plutôt méditerranéen, avec des chênes verts, une végétation plutôt basse, assez sèche. On entend encore tous les bruits de la vallée, la rivière, les bruits du village. Et puis on va passer la porte forane. Et à partir de cette porte forane, hop, on change de paysage, on rentre dans un sous-bois. Et là, c'est une atmosphère feutrée qui nous permet de nous approcher de l'abbaye, avec beaucoup de châtaigniers en particulier.
On est à quelle altitude quand on arrive à Saint-Martin-du-Canigou, Pascal de Sagazan?
À peu près 1050 mètres.
On est à 1050 mètres, donc quand on s'y rend, ça dépend des saisons, mais parfois on commence déjà à avoir un petit peu froid. C'est un lieu, on va dire, très agréable à vivre l'été et très rude l'hiver. Est-ce que vous pouvez décrire un peu les conditions climatiques de ce lieu?
Je pense que c'était vraiment comme vous le dites autrefois, mais on peut vraiment ressentir ici qu'il y a eu un changement climatique et les hivers sont beaucoup moins rudes qu'autrefois. Pour vous donner une idée, la montagne qui est en face de nous, eh bien, si on regarde des photos ne serait-ce que de 1900, elle était nue. Et aujourd'hui, elle est entièrement couverte d'arbres. On a un peu changé d'étage montagnard.
On se réjouit pour vous parce qu'il doit faire moins froid l'hiver, mais je ne sais pas si dans le fond, c'est une bonne nouvelle. Alors, cette abbaye, c'est donc un joyau de l'art roman. On dit aussi, avant qu'on s'y balade, allez, qu'on atterrisse en hélicoptère, dernier préambule, on dit que c'est une abbaye catalane, que c'est comme le cœur spirituel du pays catalan. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de cela, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, en fait, les Catalans considèrent que c'est l'un des berceaux de la culture catalane. Parce que la catalanité, elle se réfère vraiment à l'époque de Guifred le Poilu, qui est considéré comme le fondateur de la Catalogne, puisque au IXe siècle, eh bien, il a repoussé les Maures, comme on disait autrefois, de Carcassonne à Valence, en Espagne aujourd'hui. Donc, c'est à cette Catalogne-là que les Catalans aiment se référer. Et le fondateur de cette abbaye de Saint-Martin-du-Canigou, c'est l'arrière-petit-fils de Guifred le Poilu. Donc, après Guifred le Poilu, sa famille s'est partagée peu à peu, génération après génération, la Catalogne. Et le fondateur de l'abbaye, eh bien, il a hérité de la Cerdagne, du Conflent, du Valais, d'autres terres. Voilà.
On se plongera donc dans l'histoire de ce lieu un petit peu plus tard dans l'émission.
Oui.
C'est donc une abbaye qui est située donc dans le diocèse aujourd'hui de Perpignan-Elne, donc dans les Pyrénées-Orientales. Alors il y a à peu près 30 000 personnes, semble-t-il, qui passent chez vous, qui grimpent et qui arrivent en ce lieu. Si on s'arrête juste en deux lieux, ça va être d'une certaine manière un peu une visite express, on rentre dans ce cloître, un cloître à ciel ouvert avec des chapiteaux exceptionnels. Qu'est-ce qu'on peut voir?
Ben en fait, déjà, c'est assez étonnant parce que ce cloître est ouvert, effectivement. Et un cloître bénédictin, normalement, n'est pas ouvert. Et à l'époque des moines, effectivement, il y avait un bâtiment qui bouchait la vue, on va dire. Mais le premier restaurateur dont on parlera tout à l'heure, eh bien, a fait le choix de ne pas reconstruire ce bâtiment-là. Pourquoi? Eh bien, pour mettre en valeur les chapiteaux qu'il a pu retrouver au début de la restauration, et qu'il a choisi de placer là, dans cette partie reconstruite du cloître inférieur. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, les chapiteaux de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, qui nous ouvrent le paysage vers la montagne. Et c'est magnifique. Quand le soleil sort de la montagne, bon, alors, en plein hiver, le soleil sort, on va dire, vers midi, eh bien, qu'il surgisse sur les chapiteaux, c'est magnifique. Ouais.
Alors, le clou du spectacle, d'une certaine manière, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, hein, quand les touristes montent, c'est quand même quand ils arrivent donc, dans l'église Saint-Martin. Aujourd'hui, est présent donc, la communauté des Béatitudes, dont vous faites partie depuis 1988. On va découvrir dans un instant un petit peu cette communauté. Qu'est-ce qu'ils voient dans l'église Saint-Martin, à la fois, on va dire, le bâtiment et et puis cette présence spirituelle, je crois que tout au long de la journée, il y a souvent soit des offices, soit des temps d'adoration. Imaginez que je sois un touriste, qu'est-ce que je trouve en général dans cette église Saint-Martin ?
Ben, d'abord, je pense que la première chose qui le prend peut-être de plein fouet, c'est qu'il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Et on va visiter cet espace en silence. Et l'espace aura été expliqué auparavant pour que les gens puissent vraiment visiter et goûter ce qui fait la caractéristique du lieu. Et les gens n'ont pas l'habitude. D'habitude, ils visitent des musées. Tandis qu'ici, ils visitent une abbaye vivante. Alors, qu'est-ce qui leur a été expliqué avant d'entrer et de découvrir l'abbaye vivante, l'église vivante ? Eh bien, on leur a expliqué que, des détails du premier art roman dont l'abbaye est une sorte de manifeste. Bon, c'est complètement exceptionnel à cette époque, au tout début du XIe siècle, d'avoir une double église. Les églises sont superposées et elles sont toutes les deux voûtées. Alors que c'est l'époque où on est en train de redécouvrir la voûte, hein, la technique romaine, eh bien, avait été oubliée dans le temps. Et là, on la redécouvre, on l'expérimente. Et là, de ce coup d'essai, ils vont faire un coup de maître en superposant deux églises l'une sur l'autre. Donc, on a une belle voûte en plein cintre. Et ce sont des colonnes monolithes en granit qui supportent la voûte avec chacune son chapiteau. Mais cette fois-ci, des chapiteaux pas comme ceux qu'on a vus dans le cloître. Ils étaient en marbre, ils étaient assez travaillés. Là, ce sont des chapiteaux très simples, en méplat. Voilà. Ils vont surtout voir ça.
On continuera la visite un peu plus tard. En tout cas, c'est vrai, quand on a pris son courage à deux mains et qu'on grimpe en haut de ce lieu, on est saisi, on sent que c'est une présence spirituelle aussi millénaire, comme on peut l'être au Mont-Saint-Michel ou à l'abbaye de Vézelay. Alors, la communauté des Béatitudes, il faut en dire quand même quelques mots. Paul Nérac, je rappelle donc que vous êtes prêtre religieux de la communauté des Béatitudes et donc responsable de l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Quelle est cette communauté, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui a accepté ce défi d'aller vivre en haut de ce nid d'aigle?
Alors tout d'abord, la communauté, hein, pour faire le cours, hein, la communauté des Béatitudes a été fondée par deux couples, hein, le 26 mai 1973 en France, et elle reçoit sa première reconnaissance de l'autorité ecclésiale par Mgr Robert Coffi, à l'époque archevêque d'Albi, c'était en 1979. Voilà, donc aujourd'hui elle dépend donc de la congrégation pour les instituts de vie consacrés. Et en tant que famille ecclésiale, eh bien, la communauté intègre parmi ses membres des sœurs, des frères consacrés, des sœurs consacrées, des frères consacrés, dont des prêtres, et aussi des fidèles laïcs, célibataires, couples, diacres permanents.
Ça veut dire qu'on voit toutes ces personnes se promener dans l'abbaye, on voit des gens en habit et pas en habit, c'est ça qu'il faut en déduire très simplement ?
Oui, alors tout simplement, dans nos maisons, hein, on a à peu près 48 fondations, 50 fondations réparties dans différents continents, hein, dans le monde, dans 26 pays à peu près, et dans nos foyers, hein, oui, vous croisez des prêtres, des frères consacrés, des sœurs, en même temps, des familles, des enfants, des laïcs. Et voilà, comme à Saint-Martin d'ailleurs, à Saint-Martin, donc pour parler de notre foyer, eh bien, nous avons fondé ici donc en juin 1988 pour répondre à l'appel de Mgr Jean Chabert à l'époque, donc pour une triple mission. D'abord, bien sûr, assurer la prière, continuer la prière en ce lieu, ouverte à tout le monde. Ensuite, accueillir de nombreux visiteurs dont vous avez parlé, et les retraitants, bien sûr, hein, qui viennent partager notre vie. Et puis, comme la vie est un site classé, monument historique, hein, nous continuons d'entretenir, de restaurer avec, bien sûr, l'aide de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, le lieu.
Alors, Paul Nérac, juste, vous êtes aussi une communauté dite du renouveau charismatique. On vous entend comme de loin, mais voilà, on est allé vous chercher jusque dans votre refuge de haute montagne, donc ça ne surprendra pas les auditeurs. Voilà, on va dire un reportage exceptionnel, et j'ai envie de dire conditions exceptionnelles. Paul Nérac, une communauté du renouveau charismatique, ça donne quoi, par exemple, dans la liturgie? Si on grimpe en haut de Saint-Martin du Canigou, qu'on assiste à l'un de vos offices, c'est un office qui est loin d'un office bénédictin en latin. Qu'est-ce qu'on entend?
Alors vous entendez d'abord les 16 frères et sœurs, hein, qui chantent. Donc ici, nous sommes 4 frères, hein, 3 laïcs et 9 sœurs, Et puis, bien sûr, vous entendrez la liturgie tout au long des journées, l'aude, hein, les laudes, les vêpres, les complis et la messe, bien sûr. Hein, la messe est tout, chaque jour, hein, chaque jour de la semaine. Bien sûr, nous avons aussi notre planning chapelet aussi, hein, qui est inscrit dans notre journée.
Mais quelle est la particularité un peu de la liturgie? C'est une liturgie, on va dire, donc en français, mais je ne sais pas, très, très joyeuse, très vivante, un peu orientale.
Oui, exactement. Exactement, très vivante. Alors, il y a le samedi soir, les vêpres byzantines, par exemple, effectivement. Hein, mais vous aurez, bien sûr, les laudes et les vêpres en semaine latine. Et vous avez, alors, ce qui nous marque, bien sûr, c'est la louange. Hein, c'est une intense vie d'union à Dieu. Et en même temps, une pratique de la louange fervente. Alors, ça, c'est, pour nous, c'est important de pouvoir louer le Seigneur à voix haute et de lui redire tout notre amour, bien sûr.
Une dernière question avant qu'on fasse une première pause, Paul Nérac. À quoi ressemble la journée d'un religieux, d'un moine, mais il y a une toute petite nuance, d'un religieux ou d'une religieuse ou d'une donc d'un laïc engagé comme Pascal de Sagazan en haut de cette montagne. On va dire, allez, en saison basse comme en ce moment, une journée type, ça ressemble à quoi?
Alors, tout d'abord, nous avons les lodes à 7h30 le matin. L'aude à 7h30, ensuite, il y a un temps de Lectio Divina qui est proposé aux frères et sœurs. Hein. Ensuite, à 9h commence le travail, le service, hein, petit ministère chacun dans l'abbaye. Et à midi, il y a le chapelet. Et puis, l'après-midi, à nouveau le travail. Quand je dis travail, il y a même un temps d'adoration. Le Saint-Sacrement est exposé toute la journée et chaque frère et sœur prend une heure dans sa journée, hein, d'adoration devant le Saint-Sacrement exposé. Et puis la messe, bien sûr, les vêpres à 17h30, suivi de la messe. Hein, voilà. Après, un petit temps libre et puis le repas du soir et les complis qui terminent notre journée.
Et le grand silence de la nuit. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler de l'histoire sainte de ce lieu, histoire passée et présente, puisque 30 000 personnes qui passent, on imagine que si vous prenez autant de temps pour la contemplation, pour la prière, pour l'intercession, c'est aussi pour essayer de conduire toutes ces personnes vers plus grand qu'eux et plus grand que les montagnes de ce lieu. On vous retrouve dans quelques minutes.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Site exceptionnel d'Occitanie, cap sur l'abbaye Saint-Martin du Canigou. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau pour nous en parler, Paul Nérac, prêtre religieux de la communauté des Béatitudes et responsable de cette abbaye, Pascal de Sagazan, laïque engagé à la communauté des Béatitudes, directrice de l'activité touristique de ce lieu, et sœur Marie-Ange, religieuse de cette même communauté et responsable des sœurs en ce lieu. Pascal de Sagazan, l'histoire de ce lieu. Ce lieu qui a fêté donc ses 1000 ans, c'était en 2009, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait.
Ça a été l'occasion
d'une grande fête.
Ça a été donc l'occasion d'une grande fête et puis d'une couverture presse aussi assez conséquente. Je me suis replongé dans quelques-uns des articles, mais il y a des magnifiques articles, entre autres pour ne pas les citer, donc dans l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Racontez-nous qui a eu l'idée saugrenue de vouloir construire un monastère en ce lieu.
Eh bien, donc, comme on le disait tout à l'heure, l'arrière-petit-fils de celui qui est considéré comme le fondateur de la Catalogne, donc lui, c'est Guifred II, comte de Cerdagne et du Conflent. Et ça va être une aventure familiale. Parce que, à l'époque, la foi, ça fait partie de la vie. Et donc, il va désirer, avec sa famille, ériger ici une abbaye. Alors, le pourquoi du lieu, ça, c'est un peu mystérieux. Parce que c'est vrai qu'une abbaye bénédictine à 1050 mètres d'altitude, c'est quand même...
C'est rare
et en même temps un peu difficile pour la vie quotidienne. C'est-à-dire que les moines d'habitude vivent en mettant en valeur, on va dire, une ferme. Et ici, la terre, elle est rare sur la montagne. Et on a encore les traces des cultures que les moines ont pu faire, parce qu'on a les traces des fameuses terrasses, vous voyez, avec les murs de pierre sèche. Quand les gens montent à pied, ils peuvent voir les restes de ces terrasses. Mais il était évident que ça ne suffisait pas pour faire vivre la communauté bénédictine. Donc, dès la fondation, le fondateur Guifred, mais aussi son épouse Guilla, ont doté l'abbaye de propriétés foncières. Et au XIIe siècle, elles ont été dénombrées, il y en avait une cinquantaine, pour aider les moines à vivre ici.
Alors la présence bénédictine a été continue jusqu'à la Révolution. À la Révolution, ils n'étaient plus très nombreux.
Un peu avant la Révolution française, en fait, les 30 moines pour lesquels cette abbaye était construite, il n'y en a plus qu'à peu près 5. Oui, il y en a 5. Mais ils se disent dans une lettre, ils se disent âgés, ils parlent de leurs infirmités. Et donc ils demandent, en 1779, ils demandent l'autorisation de laisser l'abbaye et de repartir dans le monde, de laisser les vêtements monastiques, d'abandonner la vie qui est la leur. Et cette autorisation, ils l'obtiennent en 1783 et ils partent. Donc, vous voyez, ce n'est pas directement la Révolution française qui a mis un point d'arrêt.
En tout cas, il y a eu donc derrière une longue parenthèse. Et alors, preuve que l'histoire de ce lieu est liée à l'histoire de la Catalogne, j'ai cru comprendre, c'était à l'occasion d'une période, qui est la période de la Renaissance catalane, et par la rencontre de deux hommes, qui est René cette abbaye. En quelques mots, c'est quoi la Renaissance catalane, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette histoire, et qui sont ces deux hommes qui ont redonné vie à ce lieu?
Fin 19e siècle, début 20e siècle, il y a cette période de la Renaissance où les Catalans vont redécouvrir leur culture, leur identité, leur langue. Et il y a tout un enthousiasme. Et le chantre de cette Renaissance, c'est Jacint Verdaguer, donc un poète catalan. Et on va entendre parler de lui parce qu'il va écrire un poème qui s'appelle Canigo. Et à l'époque, il y a des joutes poétiques. Et il y en a une fameuse à Barcelone qui s'appelle Les Jeux Floraux, Els Jocs Florals. Et il va remporter les prix de toutes les catégories. Donc, un autre inconnu, pas du tout dans la même région, Jules de Carcelade Dupont, va entendre parler de cela. La traduction en français ne va pas tarder à être écrite et ça va l'enthousiasmer. Et du coup, il va venir visiter la région. Il va tomber amoureux de la culture catalane, on peut le dire. Mais il va rencontrer par hasard, dans une librairie à Barcelone, l'auteur, Jacine Verdaguer. Et ils deviennent amis pour la vie.
Et alors, le lien avec l'abbaye, quel est-il?
Alors, quel lien avec l'abbaye? En fait, Canigo, ça raconte les circonstances de la naissance de l'abbaye. Alors, Jacine Verdaguer, pour les écrire, il s'est inspiré de vieilles légendes et il en a fait sa version, qui est très lyrique et très vivante. Donc, et peut-être que, puisqu'on n'a pas de réponse au pourquoi l'abbaye a été construite ici, ben on peut peut-être la trouver dans cette légende, où il est dit qu'en fait, le fondateur, eh bien, dans un accès de colère, aurait tué son neveu et pour comment dire, pour se racheter, l'abbé Olibas, qui est son jeune frère, lui aurait demandé de construire une abbaye sur le lieu du meurtre.
Alors, de la rencontre de ces deux hommes, donc, va renaître cette abbaye. Vous l'avez donc dit, c'est donc fin 19e, début 20e. Il y a aussi, on ne peut pas tout raconter, hein, mais il y a un courageux bénédictin qui a contribué aussi à la restauration de ce lieu, le père Bernard de Chabannes. Qui était ce moine qui courageusement, en haut de sa montagne, a rebâti en partie cette abbaye?
Voilà, bah c'est ça. En fait, la première phase avec avec Jules de Carcalade Dufond, parce qu'on a oublié de dire quand même il est devenu évêque des Catalans. Il a été nommé évêque à Perpignan, et en tant qu'évêque, eh ben, il a pu entreprendre cette restauration, et il y a travaillé jusqu'à sa mort en 1932. Et puis, pendant un certain temps, eh bien, jusqu'en 1952, pas de personne pour continuer le travail, jusqu'à ce que le père Bernard de Chabannes, qui avait connu l'abbaye du temps de Jules de Carcalade Dupont, qui était venu ici pour prêcher quelques retraites, eh bien décide de reprendre le travail à son compte. Du coup, il se fait exclaustrer parce que lui, il était bénédictin à l'abbaye d'Encalcate. Et il va se faire. C'est quelqu'un qui est assez charismatique, on va dire, et qui sait se faire entourer.
Un tempérament hors norme, on peut dire, hein, quand même,
Oh oui,
c'est...
un tempérament hors norme, parfois peut-être un peu encombrant, mais en même temps, une énergie et comment dire, un homme capable de gérer cette entreprise, quoi, on va dire. Et donc, il va se faire entourer de généreux donateurs. Il va se faire entourer aussi de beaucoup de bénévoles. Il va gagner le concours des chefs-d'œuvre en péril, ça va lui donner un peu d'argent. Enfin, il a beaucoup d'idées. Et grâce à lui, ben, les travaux vont pouvoir être achevés vers justement en 1982. Il a été décidé qu'on n'irait pas au-delà dans la restauration.
Alors aujourd'hui, donc on l'a dit, il y a à peu près 30 000 personnes qui montent pour découvrir ce joyau de
Oui,
l'art
un peu
romance,
moins maintenant,
un peu moins
oui, un petit
peut-être,
peu moins.
ce joyau de l'art roman. Alors il monte certainement en grande partie pour des raisons touristiques. Maintenant, on n'est pas dans le cœur de toutes ces personnes. Vous allez nous raconter un petit peu comment vous vous y prenez pour les recevoir. Vous êtes donc vous, Pascale de Sagazan, directrice de l'activité touristique. Là, j'ai envie de dire, ils ne peuvent pas vous échapper d'une certaine manière, puisqu'ils sont accueillis par la communauté. Comment vous y prenez? Alors, vous n'allez pas nous faire toute la visite, mais un peu quelles sont les intentions que la communauté a au cœur quand il voit arriver ces presque 25 000 personnes par an?
Eh bien, d'un côté, il n'est pas question de faire une visite prosélyte. Donc, on a à cœur vraiment de se former les uns les autres pour qu'on ait une visite avec un contenu vraiment de qualité. Et puis, on est des interlocuteurs de la région, on est tenu de faire cette visite de qualité. Hein, on s'est fait labelliser pour être un interlocuteur sérieux aussi. Et donc, tout visiteur peut vraiment trouver son compte, quoi qu'il recherche dans sa visite touristique. Après, nous, ce sur quoi on mise, c'est la manière dont on va accueillir les gens. Et donc, il y a une seule personne qui se présente à une visite du jour en plein hiver, eh bien, on va lui faire la visite guidée totale. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir comment dire, on va pouvoir la faire à sa mesure, exactement ce qu'il a
Vous
envie de creuser.
nous donnez presque envie de venir hors saison, là, c'est...
Ben, et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent quand on est en si petit nombre, parce que là, on est vraiment en discussion pendant toute la visite. Et il y a une fois où je me rappelle, c'était assez amusant parce que je lui dis, ben écoutez, vous êtes seul, donc c'est vraiment à la carte. Est-ce que vous préférez plutôt sur l'architecture, plutôt sur l'histoire ? Elle me dit, les pierres, parlez-moi des pierres. Alors bon, ben, j'oriente ma visite vraiment pour que ce soit plutôt sur l'architecture. Et puis je vois qu'une sœur passe dans le cloître et il la suit du regard. En fait, il n'avait pas encore compris que c'était tenu par une communauté et moi, mon avis ne pouvait pas le lui laisser entendre. Donc, il suit la sœur du regard et je le regarde et je lui dis « Peut-être que les pierres vivantes vous intéressent aussi ?» Et il me répond « Oui, parlez-moi des pierres vivantes
!» Alors, donc ces touristes, vous les accueillez avec tout votre enthousiasme, votre générosité qu'on entend et ça fait chaud au cœur. Il y a une autre réalité, certains touristes ou d'autres personnes en fait viennent avec des intentions peut-être plus spirituelles ou plus religieuses. Sœur Marie des Anges, vous allez nous en parler. Peut-être une question qui va peut-être vous surprendre, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi pas mal de personnes qui montaient parce qu'ils trouvaient là un lieu rempli d'énergie, il venait à une source tellurique, on dit que c'est un lieu où il y a des micro-vibrations parce qu'on serait sur une faille sismique. Est-ce une vue de l'esprit ? Est-ce que de fait vous avez des gens qui viennent méditer ou toquer à la porte du monastère aussi pour ces raisons-là ?
Alors nous avons effectivement pas mal de personnes tout au long de l'année qui, soit suite à une visite, soit une émission, qu'ils ont vu un reportage ou alors les bouches à oreille aussi, qui viennent frapper à notre porte pour demander de vivre quelques jours de retraite parmi nous. Il faut bien savoir que pour la plupart, c'est souvent la première fois de leur vie qui pose, je dirais, une démarche importante comme celle-ci. Hein. Alors,
mais est-ce à dire, Sœur Marie-Ange, qu'il y en a qui viennent aussi avec cette motivation un petit peu New Age, c'est-à-dire que d'abord c'est un lieu qui dégage une grande force et une grande énergie, ou est-ce que c'est rare ce type de profil ?
Si, ça arrive bien sûr, mais quand même dans ceux qui demandent particulièrement à faire une démarche spirituelle de quelques jours parmi nous, c'est quand même plus parce qu'ils ont été touchés soit par quelqu'un qui leur a fait la visite, soit en passant dans l'église, c'est parce qu'il y a une communauté vivante sur place. C'est ça, la plupart du temps, qui motive, je dirais, leur démarche, quoi.
Alors, comment...
également parce... Oui, pardon.
Pardon, allez-y, je vous en prie, finissez.
Et soit aussi parce que des fois, ben, c'est des gens qui sont en train de vivre un temps difficile, ont besoin d'un temps de recul, qui viennent de vivre un deuil, et donc ont aussi besoin d'être aidés dans ce sens aussi.
Alors, quel est le tarif, j'ai envie de dire, le tarif normal pour un retraitant ? Vous le faites passer côté coulisses de la vie du monastère. Côté coulisses de la vie du monastère, ça ressemble à quoi ? C'est faire des choses aussi toutes simples, j'imagine, comme faire le ménage et faire la cuisine, parce qu'il faut faire tourner la boutique.
Alors, de toute façon, c'est un accueil de type familial, hein, c'est un accueil familial, donc il n'y a vraiment que quelques personnes. Hein, alors, en plus, la ville n'est pas très grande. Et au niveau financier, chaque retraitant laisse ce qu'il désire, hein, c'est libre, hein, tout à fait. Hein, voilà. Après, si vous voulez, sur place, eh bien, un retraitant va partager tout à fait notre journée à travers les différents offices. Et puis, il y a beaucoup de temps libre pour la personne dans la journée, avec possibilité également de rencontrer un membre de la communauté pour un temps d'écoute. Et puis, les retraitants partagent, bien sûr, loge sur place, mais partagent aussi les repas avec la communauté. C'est d'ailleurs pour ça que, par le bouche à oreille, souvent, ça marche pas mal, parce que les gens qui n'ont jamais fait de retraite se retrouvent pas seuls, livrés à eux-mêmes, si vous voulez, quand ils viennent parmi nous.
Sœur Marie-Ange, est-ce que vous pouvez tirer un petit peu de votre chapeau quelques-unes des rencontres que vous avez faites, vous ou d'autres, en ce lieu qui nous aide à toucher du doigt ce que vivent ces touristes qui parfois se transforment en retraitants ? Est-ce que vous avez l'une ou l'autre histoire qui montre qu'il se passe quelque chose en ce lieu ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y en aurait plusieurs. Mais j'ai souvenir d'un couple qui était en visite il y a quelques années, qui ne pratiquait plus depuis un certain nombre d'années. Et en passant dans le cloître qui est ouvert sur la montagne, C'était un jour de beau soleil, comme on en arrive souvent ici. Et tout d'un coup, il y a un oiseau qui est passé. Et cet oiseau, avec la lumière du soleil, c'est comme, je dirais, illuminé. Ça a été comme un déclic très fort pour Hervé, qui était donc en visite avec sa femme Élodie. Il a été touché vraiment au cœur et ça lui a fait dire mais Dieu existe, quoi. Dieu existe. Alors du coup, après entendant parler des retraites, il a d'abord demandé à venir seul, sans son épouse, dans un premier temps. Et là, ça a été vraiment une remise en question pour lui, un désir de mettre en premier Dieu dans sa vie. Il est revenu tellement bouleversé que sa femme a demandé à son tour à venir en retraite. Et depuis, bah, ils sont réengagés dans l'église, dans la paroisse. Nous avons eu la joie de les revoir. Ils sont repassés encore l'année dernière et rendre grâce et de voir ce couple, je dirais, lumineux d'avoir pu, à travers ce lieu, voilà, et la présence du Seigneur, pouvoir accueillir le Seigneur et le remettre dans leur vie et en rayonner aujourd'hui.
Voilà l'un des fioriti donc de ce qui peut se vivre à l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Alors la connexion n'est pas très bonne, c'est pas de votre faute, mais c'est que vous êtes loin, vous êtes en haut de votre montagne. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va essayer de vous rappeler pendant la pause. On va rencontrer l'une des personnes qui vit en ce lieu, l'un des témoins de ce lieu, comme dans chacune des émissions. De ces balades dans ces sites exceptionnels d'Occitanie, on essaie de rencontrer une figure emblématique, on va dire, de ce lieu. Ça sera vous, Paul Nérac, vous avez accepté donc généreusement, je rappelle, vous êtes prêtre et religieux de la communauté, de témoigner un peu de votre chemin de vie qui n'est pas sans lien avec ce lieu exceptionnel. Thank you.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Site exceptionnel d'Occitanie, Cap sur Saint-Martin du Canigou, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui par hasard nous rejoindraient, nous sommes avec plusieurs membres de la communauté qui depuis 1988 habitent en ce lieu millénaire, cette abbaye fondée au début du XIe siècle, donc juchée dans les Pyrénées orientales, cœur spirituel du pays catalan. Et donc nous sommes avec vous, Paul Nérac, vous êtes prêtre et religieux de la communauté, responsable de cette abbaye, Pascal de Sagazan, laïque et engagée dans cette même communauté, directrice de l'activité touristique, et Sœur Marie-Ange, religieuse de cette communauté en responsabilité, responsable des sœurs de ce lieu, puisque cette communauté accueille donc des sœurs, des frères, des prêtres et des laïcs. C'est une des particularités de cette communauté nouvelle qui est la communauté des Béatitudes. Alors vous, Paul Nérac, vous avez très généreusement donc accepté d'être un peu le témoin de ce site, puisque dans tous ces sites que l'on visite, il y a des présences lumineuses aux histoires magnifiques, parfois très discrètes. Vous êtes religieux, et votre appel à la vie consacrée n'est pas sans lien avec cette abbaye Saint-Martin du Canigou. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire?
Oui, tout à fait. Alors, je dirais que c'est moi, à l'âge de 6 ans, mes 6 ans, j'ai une rencontre très forte avec le bon Dieu, avec le Seigneur, par l'intermédiaire de religieux, deux moines. Alors, est-ce qu'ils étaient franciscains, dominicains, carmes, je n'en sais rien, mais ils avaient un habit donc de moines, et en me retrouvant avec eux, et en parlant avec eux, eh bien, j'ai reçu dans mon cœur qu'un jour je serais comme vraiment dans mon cœur, comme en lettre de feu, c'était écrit, je serai un jour comme, voilà. Donc un appel du Seigneur à la vie consacrée. Ça, c'était clair pour moi dès mon enfance. Ensuite, la vie s'est déroulée, j'étais servant d'hôtel pendant longtemps. Et à l'âge de 11 ans, j'ai fait une rencontre aussi à Lourdes avec la Vierge Marie. Une très forte rencontre avec la Vierge Marie, dans ces fameuses piscines de Lourdes, où l'eau est très froide, mais c'est là où vraiment j'ai rencontré la très sainte Vierge Marie, et puis dont la vie s'est déroulée, la vie étudiante, ensuite la vie professionnelle. J'ai travaillé donc 13 ans dans une, oui, 12 ans dans une entreprise de télécommunication, où je peux dire que je reliais les hommes entre eux. Et puis,
vous étiez aussi artificier, il faut le préciser, parce que ça pourra servir pour la suite.
C'est ça, de par mon métier aussi, puisque je créais des lignes téléphoniques, entre autres, donc j'avais l'autorisation, j'avais passé le diplôme et j'avais l'autorisation de disposer d'explosifs pour planter des poteaux dans la roche. Alors, donc ensuite, donc, jusqu'à l'âge de 30 ans, quand même, l'appel demeurait, bien sûr. Tous les ans, je faisais avec ma moto, j'allais à Lourdes faire mon petit pèlerinage dans la grotte de Lourdes, m'en remettre à la Vierge Marie, de remettre cet appel. Mais j'avais pas, dans ma grande liberté, je dirais, le Seigneur m'a toujours laissé libre de répondre. Donc, j'avais pas quand même répondu au bon Dieu. Je lui disais, Seigneur, attends un peu, je sais pas où aller, bénédictin, dominicain, je sais pas où aller. Et puis donc, un jour, à l'âge de 30 ans, j'ai dit au Seigneur, écoute, Seigneur, d'accord, donc j'avais l'entreprise, mais je voyais que l'avenir était, mon avenir n'était pas là. Donc j'ai dit, d'accord Seigneur, écoute, montre-moi, je m'abandonne à ta volonté. Et là donc, tout est parti, le Seigneur vraiment de l'humour. Tout est parti d'une caravane que j'avais achetée, et mes parents un jour ont demandé, Paul, tu devrais nous prêter ta caravane pour qu'on puisse partir dans les Pyrénées orientales, au bord de la mer. Donc ils sont venus à Canet, je crois, dans ce coin-là, et ils sont montés donc visiter l'arrière-pays et visiter l'abbaye Saint-Martin-du-Canigou. Et là, mon père a vu les frères qui fondaient, ils fondaient l'abbaye, et donc ils creusaient dans la roche un énorme trou pour une fosse septique, pour installer une fosse septique. Et mon père a dit, mais vous travaillez, vous n'allez pas, je vais demander à mon fils de venir vous aider avec les explosifs, en une journée, il aura fini. Donc voilà. Mon père, revenant à la maison, m'a dit, Paul, tu devrais aller à l'abbaye Saint-Martin aider ses frères. Alors bon, je lui ai dit, papa, bon, peut-être, bon, allez, j'y vais. Et c'est comme ça donc, que je suis venu aider, que j'ai découvert l'abbaye Saint-Martin, dans un premier temps pour miner.
Alors c'est ça, oui, vous avez miné la roche, vous l'avez rendu un grand service. Et alors ce qui est étonnant dans votre histoire, c'est que c'est en faisant justement des choses simples, en vous mettant au service de cette communauté, que vous êtes senti appelé aussi à, comment dire, à rejoindre cette communauté.
Tout à fait. Et à partir de là, bon, le bon Dieu m'a miné mon cœur de pierre. Hein. Et là, j'ai compris. J'ai compris que le Seigneur m'appelait là, donc à l'abbaye Saint-Martin. Très rapidement, il a fallu un an pour me libérer de mes activités professionnelles. Et je suis venu. Je suis venu donc à l'abbaye. Il faut savoir que lorsque je traînais la patte pour venir, le Seigneur, toujours, par des petits événements, me rappelait, Paul, tu m'as dit oui pour l'abbaye Saint-Martin. Et en 92, donc, je suis arrivé définitivement à l'abbaye Saint-Martin pour, au départ, tout simplement une vie de frère consacré. Je me sentais pas appelé au sacerdoce, hein, tout simplement pour une vie de frère consacré. Et c'est 7 ans plus tard, alors que j'avais fait mes vœux, hein, que donc j'ai reçu à nouveau un appel, voilà, la vie sacerdotale. Hein. Là, j'ai pas eu besoin de fax, comme on dit. J'ai compris que le Seigneur m'appelait sacerdoce, et donc je suis parti à Toulouse, à la cité de Toulouse. Hein.
Alors, Paul Nérac, vous êtes donc aujourd'hui donc religieux de cette communauté des béatitudes. Dans cette communauté, donc comme dans d'autres communautés, on a l'habitude de changer de maison, comme on dit, d'aller dans différentes communautés. Vous, il y a une particularité, c'est que vous m'avez dit donc que vous avez passé en tout 18 ans en ce lieu. Quand on y vit, quand on y passe autant de temps, en ce lieu donc à plus de 1000 mètres d'altitude, lieu atypique s'il en est, vous dites que ça ressemble un peu au Mont Athos. Est-ce que ça marque un peu votre vie spirituelle, et si oui, comment?
Oui, parce que ici, dans ce lieu, je dirais, ce qui vous marque, c'est bien sûr le silence, hein, surtout en période creuse, le silence nous parle, hein, voilà, nous qui sommes des contemplatifs. Donc, moi, qui suis très attiré depuis mon enfance par la montagne aussi, et par la beauté de la création, ici, j'ai retrouvé tous les éléments nécessaires à ma vie religieuse, à ma vie donnée à Dieu, à mon union au Christ, que je recherchais bien sûr. Et donc effectivement, ce lieu, l'abbaye, construit donc, comme vous le dites, comme un monastère sur le Mont Athos, la montagne, le silence, la création, les animaux, enfin tout cela, bien sûr, vient résonner dans mon âme. Hein. Et voilà, c'est pour cela que même lorsque j'étais obligé de quitter cette maison pour aller à Toulouse, et puis bon, d'autres maisons où j'ai rendu service, mais toujours, j'allais dire, mon cœur demeurait à l'abbaye Saint-Martin. Hein, voilà, on s'abandonne bien sûr à la volonté du Seigneur. C'est vrai que l'abbaye Saint-Martin, pour moi, c'est ma maison mère. C'est un peu ma maison mère, effectivement.
Voilà, vous dites, en effet, c'est ma maison mère. Vous dites aussi que vous êtes né dans la montagne, donc en Ariège, et que du coup, il y a un fil conducteur dans votre vie. Et il y a, pendant donc des siècles, ce sont des bénédictins qui ont vécu ici. La caractéristique de l'ordre bénédictin, c'est donc il y a cette stabilité du lieu. On dit même que quand un frère rentre dans une communauté, il choisit aussi le lieu, où Dieu lui donne aussi cela par la même occasion. Ça peut paraître étonnant de se dire qu'en fait, que Dieu passe par des paysages, par des pierres, par une architecture. Est-ce une vue de l'esprit, ou est-ce que, on va dire, c'est normal quelque part, et c'est la manière de Dieu que de passer par des choses apparemment simples ou triviales?
Ben, de toute manière, quelqu'un reçoit un appel de Dieu, de toute manière, ça s'incarne toujours dans un lieu, hein, pour une mission d'église aussi. Donc, effectivement, le lieu répond aussi, confirme un appel que la personne peut recevoir. Moi, en tout cas, l'abbaye Saint-Martin a confirmé mon appel. De suite, je dis, c'est là que le Seigneur m'appelle, hein, dans ce lieu un peu retiré, isolé. Comme vous l'avez dit, effectivement, ça répondait aussi, il y avait une analogie avec mon pays, hein, l'Ariège, je suis né dans la montagne aussi. Et voilà, donc c'est là, j'ai dit c'est là. Et effectivement, de toute manière, c'est aussi mes supérieurs qui confirmaient aussi, oui, qui m'ont demandé de revenir ici, à l'abbaye Saint-Martin, hein, effectivement. Donc tout cela pour entrer dans cette, au sens de la volonté de Dieu, dans, ce que peuvent demander les supérieurs, mais ce que notre cœur nous-mêmes, ce que notre cœur cela résonne aussi hein, pour nous-mêmes.
Eh bien, merci.
Que, voilà.
Pardon, allez-y, vas-y, finissez, excusez-moi.
Voilà, mais c'est vrai que ce lieu, cette abbaye Saint-Martin, je comprends, personnellement, je comprends très bien pourquoi tant de générations de bénédictins sont venues ici. Hein. Et vous connaissez aussi, je pense, ce lieu. Et c'est vrai que même pour les touristes, hein, les visiteurs, ils ne repartent jamais comme ils sont venus. Voilà. Personne ne repart jamais comme... Quand ils découvrent ce lieu, ils repartent toujours avec quelque chose... une lumière dans son cœur.
Eh bien, vive le temps du déconfinement pour pouvoir se rendre donc à Saint-Martin du Canigou, vous rejoindre, aller passer éventuellement un temps de retraite dans ce lieu au perché. Ça a expliqué un petit peu peut-être les conditions de liaison que nos auditeurs nous excusent. Voilà, on fait de notre mieux, on essaye de braver tous les interdits du moment presque pour continuer à vous faire voyager et vous montrer, on va dire, les splendeurs spirituelles de cette belle région Occitanie. Pour avoir tous les détails, pour avoir envie de se rendre en ce lieu, eh bien, un seul site internet, abbayesaintmartin.org, abbayesaintmartin du Canigou.org. À noter aussi qu'il y a des retraites spécialement pour les jeunes qui s'appellent Break Time in God. Vous trouvez ça aussi sur le site de cette abbaye et la communauté évidemment vous fera bon accueil. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.